n'est que 100 ans auparavant, Tübingen et même Strasbourg, où officiaient entre autres Théodore Nöldeke et Eutting, avaient été, jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale bouscule les savants, les villes les plus orientales de l'Empire allemand. Dans ce grand réseau orientaliste, Enno Litzmann était un des nœuds allemands les plus importants. C'est lui qui édita par exemple les journaux de voyage de ce fameux Eutting dont les aventures en Arabie, racontées par Bilger, nous avaient tant fait rire à Palmyre. Épigraphe, spécialiste de langue sémitique, Litzmann parcourt le sud de la Syrie dès 1900 à la recherche d'inscriptions nabatéennes. Il décrit, dans une lettre à Edward Meyer, spécialiste de l'Orient ancien, une campagne de fouilles dans le Haut-Rhin en hiver. Aux prises avec le froid, le vent et les orages de neige, il relate sa rencontre avec un bédouin qui se fait appeler Kelballah, le chien de Dieu. Ce surnom si humble lui est une révélation. Comme chez Léopold Weiss, l'humilité de la vie nomade est une des images les plus fortes de l'islam, le grand renoncement, le dépouillement des oripeaux mondains dans la nudité du désert. C'est cette pureté, cette solitude qui m'attirait moi aussi. Je voulais rencontrer ce Dieu si présent, si naturel que ces humbles créatures, dans le dénuement complet, s'appellent les chiens de Dieu. Deux visions s'opposaient vaguement dans mon esprit. D'un côté, le monde des mille et une nuits, urbain, merveilleux, foisonnant, érotique, et de l'autre, celui du chemin de la Mecque, du vide et de la transcendance. Istanbul avait signifié ma découverte d'une version contemporaine de la première forme. J'espérais que la Syrie me permette non seulement de retrouver dans les ruelles de Damas et d'Alep aux noms enchantés la rêverie et la douceur sensuelle des nuits, mais aussi d'entrevoir, au désert cette fois-ci, la lumière avicénienne du tout. Car allié à Muhammad Assad, ma fréquentation d'Ernst Bloch, de Thrace et de son petit texte sur Avicenne, avait, au grand désespoir de Sigrid, à qui je lisais à voix haute, la pauvre, des extraits interminables de ses ouvrages, induit dans mon esprit un désordre fertile, mais confus, où le matérialiste utopique prenait par la main le mystique musulman, conciliait Hegel avec Ibn Arabi, le tout en musique. Des heures durant, assis en tailleur dans le profond fauteuil défoncé qui me tenait lieu de cellule, face à notre lit, un casque sur les oreilles, sans me laisser distraire par les allées et venues de Sigrid, jambes blanches, ventre musclé, seins hauts et durs, je fréquentais les penseurs. René Guénon, devenu au Caire, le cher Abdelwahid Yahya, qui passa 30 ans à suivre la boussole infaillible de la tradition, depuis la Chine jusqu'à l'islam, en passant par l'hindouisme, le bouddhisme et le christianisme, sans quitter l'Égypte, et dont les travaux sur l'initiation et la transmission de la vérité me fascinaient. Je n'étais pas le seul. Nombre de mes camarades, surtout les Français, avaient lu les livres de Guénon, et ces lectures avaient déclenché pour beaucoup la quête de l'étincelle mystique, certains chez les musulmans sunnites ou chiites, d'autres chez les chrétiens orthodoxes et les églises d'Orient, d'autres encore, comme Sarah, chez les bouddhistes. Dans mon cas, je dois bien avouer que les travaux de Guénon ne firent qu'ajouter à ma confusion. Fort heureusement, le réel vous remet les idées en place. Un formalisme stérile me paraissait régner chez toutes les confessions en Syrie, et mon élan spirituel se brisa bien vite contre les simagrées de mes condisciples qui allaient se rouler par terre la bave aux lèvres dans des séances de zikr 2 fois par semaine, comme on va au gymnase. Un gymnase où les trans me semblaient venir un peu trop vite pour être honnête. Répéter à l'infini « La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah » en secouant la tête dans un couvent de derviches était sans doute de nature à vous mettre dans des états bizarres. Mais cela relevait plus de l'illusion psychologique que du miracle de la foi, du moins tel que la décrivait dans sa belle sobriété le compatriote Léopold Weiss. Partager mes interrogations avec Sigrid n'était pas chose facile. Mes pensées étaient si confuses qu'elle n'y comprenait rien, ce qui n'était pas étonnant. Son monde à elle, les langues slaves, était bien loin du mien.